Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bien voilà, de retour sur le plateau du congrès national de l'Union sociale pour l'habitat, qu'on appelle plus couramment H-Expo, un bâtiment, plusieurs bâtiments, c'est énorme. C'est vraiment the place to be pour le logement des Français. Les amis, on est heureux d'être avec vous. Il est 11h45 et 10h45 exactement, pardon, avec sur le stand de Procivis. Et bien évidemment, nous rencontrons toutes les personnalités qui fabriquent la ville au quotidien. Et je ne vais pas bouder mon plaisir, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est un grand monsieur de l'immobilier. Il est le directeur de Batigère Group. C'est Jean-François Prévost. Bonjour Jean-François.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Eh bien ça va très bien, je suis content d'être ici.
Merci d'être avec nous. Juste quelques mots, Batigère Group, acteur national, important, qui pèse beaucoup, avec des ramifications dans tous les domaines. Quelques mots de présentation peut-être ?
Alors effectivement, Batigère Group, c'est la holding du groupe Batigère, qui comporte environ 3000 collaborateurs sur un certain nombre de régions, avec une couverture très large en Ile-de-France, dans le Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, PACA, et puis sans oublier nos partenaires de Midi Habitat qui sont en Occitanie. Et je citerai également dans la présentation le rôle que j'occupe également, vu qu'on est sur le stand de Procivis, chez SLCI, qui est la SACICAP de Lyon.
Alors juste, grosse activité, bien évidemment, je ne peux pas résister Jean-François, maintenant que vous êtes le directeur général d'un groupe national puissant. Valérie Létard a été nommée récemment ministre du logement, de plein exercice. Vous avez 38 ministres, 16 ministres de plein exercice, c'est la première fois depuis le premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. C'est quand même le cinquième gouvernement, c'est la sixième ministre du logement. Le signal qui a été envoyé, Valérie Létard qui a piloté la Loisann, qui a l'expérience de sénatrice, qui est députée, vous le percevez comment ?
Alors sans faire de politique, c'est indéniablement un signe positif, effectivement, que d'avoir un positionnement d'un ministre de plein exercice, d'une part. D'autre part, avec quand même une référence très appuyée à Jean-Louis Borloo, qui est un très grand de l'immobilier et du logement social. Donc on voit que c'est un choix de compétences. Et donc tout ce qui apporte de la compétence, évidemment, c'est le bienvenu.
Alors, le marché a accusé une baisse dramatique sur la construction de logements neufs. Et ça, ça a échappé à personne. Et d'une violence quand même inouïe, hein, avec juste sur la première année où la chute a commencé à s'opérer, une augmentation de plus de 450 points de base sur les taux de crédit, ce qui a été absolument phénoménal, et qui a mis au rencard la primo-accession et tous les primo-accédants. Or, il apparaît que depuis juin dernier, avec quasiment entre 100 et 150 points de base de baisse des taux, on voit des signes de reprise. Est-ce que vous partagez des signes de reprise un peu, voilà, en sachant que vous, dans votre groupe, vous avez aussi des activités de transactions très fortes, donc vous êtes capable de mesurer l'impact du marché.
Oui, tout à fait. Effectivement, l'an dernier, on avait eu une année effectivement difficile, hein, pour la primo-accession, que ce soit sur la promotion immobilière, la vente de maisons individuelles ou la vente de logements HLM. Aujourd'hui, depuis la fin du printemps, depuis mai-juin, on sent un frémissement à la hausse, avec, je dirais, deux effets. Un effet psychologique qui fait que les gens se réintéressent au logement. Alors ça s'explique pas toujours très bien, mais en tout cas on le perçoit. Et puis un élément quand même évidemment très factuel, qui est une amorce de baisse des taux, qui fait que on a plus de capacité évidemment à acheter. Puis dans le marché de l'ancien, globalement, si on se décale un tout petit peu, là pour le coup il y a aussi une baisse de prix qui a eu lieu depuis un an et demi et qui commence à se sentir.
Vous partagez, vous, l'idée que la baisse de prix est significative ? Parce que quand je vois les chiffres, bon, alors à part certaines régions, hein, Bordeaux 8%, bon, c'est déjà pas mal, mais je vois sur Paris, sur certaines grandes métropoles comme Lyon, c'est pas significatif la baisse des prix.
Moi, je trouve assez significative, oui, malgré tout. Elle se joue
suffisante pour relancer le...
Alors suffisante, certainement pas, mais elle est quand même assez significative. On peut toucher des 15%, 20% sur certains biens, entre finalement ce qui se pratiquait avant et ce qui se pratique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le prix affiché, je pense, des annonces, qui peuvent rester un petit peu volontaires, comme on dit, avec des guillemets, mais la négociation finale, elle fait en sorte que finalement le prix
c'est vraiment
il rebaisse.
C'est un marché d'acheteurs.
C'est un marché d'acheteurs,
oui, un marché d'acquéreurs. Alors, on parlait justement de ce qu'il faudrait faire. Si on prend... Je vous demande de réagir sur quelques idées qui sont promues par, d'ailleurs, le réseau Procivis, dont vous faites partie en partie également. L'Alliance pour l'Habitat, qui a été nouée avec les grands acteurs du secteur. L'élargissement du PTZ à toutes les zones. France, favorable ?
Écoutez, très favorable, évidemment. Alors après, est-ce que les capacités financières de l'État sont là ? Je n'en suis pas certain. Mais évidemment que j'y suis très favorable, parce
ça
que je trouve que
extrêmement fort, hein.
La surfocalisation sur les grandes métropoles à laquelle on assiste depuis une dizaine d'années dans les politiques publiques, elle fragilise le modèle français qui est quand même d'accéder à la propriété, qui est souvent d'avoir envie d'un pavillon, alors peut-être avec un terrain plus petit, mais quand même un pavillon pour avoir un espace extérieur, etc.
Ah, je suis d'accord. 87% des Français veulent une maison individuelle.
Ben oui, et ça c'est quand même factuel. Donc le fait d'avoir enlevé la zone C, par exemple, ça m'a toujours semblé un peu curieux. Ouais. Je comprends plutôt l'économie qui est derrière. Est-ce que j'y vois vraiment une stratégie ? Pas sûr. Voilà.
Un dispositif fiscal qui remplacerait le Pinel ou une prorogation sur 1 à 2 années de Pinel, comme certains de vos confrères ? Le président de Procivis ce matin disait, bon, 2 ans, j'y crois pas, mais on pourrait éventuellement, par exemple, proroger le Pinel par un simple arrêté d'une année supplémentaire. Ça vous semblerait un bon signal également pour réparer la crise qui nous touche ?
Alors, ça serait un bon signal, mais ça serait un signal éphémère. Donc effectivement, c'est plutôt une question de fiscalité qui se pose globalement et des aides publiques par rapport au logement neuf. C'est sûr que si on pouvait avoir des signes positifs pour aider à amplifier le rebond et à rendre vraiment les Français désireux d'acheter un logement, finalement d'adapter leur logement à leur vie, parce que c'est ça le but quand même. Et chez Batigère, on est vraiment sur ce sujet-là, en disant on doit vraiment... proposer tous les types d'habitat sur toutes les régions, de manière à ce que quelqu'un qui a sa vie, qui évolue, qui était étudiant, qui se met en ménage avec son compagnon, sa compagne, qui ensuite a des enfants, qui ensuite n'a plus d'enfants à la maison parce qu'ils sont partis, qu'on puisse à chaque fois adapter le logement. Et pour cette flexibilité-là, pour la rendre à nouveau possible, à mon sens, il faut quand même quelque chose d'assez fort qui soit fait. Et aujourd'hui, on voit pas bien se dessiner l'horizon sur ce sujet-là.
Et le groupe Batigère a bien résisté à la crise ?
Alors oui,
qui a quand même durement touché vos collègues ?
On a tous été touchés, hein, notamment le taux du livret A sur le logement social. Évidemment, sa remontée a été très très forte et surtout très très rapide. Et donc forcément, ça nous a touchés. On ne peut pas dire qu'on n'était pas touchés. L'an dernier, on s'est organisé. On a fusionné 3 ESH, 2 à Paris et 1 qui était Batigère Grand Est, pour faire un ensemble qui est notre plus grosse ESH aujourd'hui, qui compte quasiment 80 000 logements. Donc c'est
ce
qu'on appelle un beau bébé, effectivement, qui est plus forte aussi pour affronter les vents contraires. Donc ça, c'était un premier effet. Il y a eu des effets de synergie qui ont eu lieu derrière, donc des économies, clairement. Donc une capacité d'autofinancement, un fonds de roulement à terminaison qui est resté tout à fait cohérent. Donc tant mieux. Et puis, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on attend... Évidemment, on espère des politiques publiques qui soient favorables, des taux qui soient plus favorables, mais évidemment, le but d'une entreprise, c'est de vivre indépendamment de ce qui se fait en dehors d'elle-même. Donc, on prend aussi notre destin en main avec un projet d'entreprise qu'on est en train de mener, qui s'appelle Impulsion 2030, c'est son petit nom, qui a pour objectif à la fois de dessiner région par région un projet de métier qui va nourrir des jonctions entre l'hébergement d'urgence, le logement social, le logement libre, parce qu'on a le plaisir de faire beaucoup de métiers.
Vous êtes sur tous les logements d'urgence.
Voilà, hébergement d'urgence,
social, voire très social.
Évidemment, le cœur du dispositif, c'est le logement social avec la marque Batigère, mais effectivement, en amont, on a la marque Présence qui regroupe des structures HLM, des associations, un ensemble, tout un écosystème. Ensuite, effectivement, du coup, Batigère, Livy pour le logement intermédiaire. Et puis nos filiales, qui sont des SACICAP, Evel ou Procivis, sur l'Est de la France, sur Bourgogne, Rhône-Alpes, Franche-Comté, etc. Et on va vers PACA actuellement, pour apporter des solutions également de gestion de copropriété, par exemple. Et donc, notre projet, il vise à ce que, sur chacune des régions, on ait un maximum de solutions logement à proposer au grand public, à nos clients, et de manière aussi à pouvoir les accompagner dans leur changement de vie, puisque on trouve ça finalement assez dommage, nous, Batigère, de ne couvrir qu'un pan de l'activité logement, et au contraire, de pouvoir accompagner sans aucune nostalgie un client qui sortirait de chez nous en logement social, mais qui irait chez SLCI, par exemple, à Lyon, pour acheter un logement en promotion ou qui irait chez Maison Axiale pour acheter une maison. Ben, on trouve ça finalement top, c'est le parcours résidentiel, mais c'est le vrai, celui qui se vit avec des engagements, des choses qui changent dans la vie des gens, dans la vie concrète.
On le voit, hein. Je prends juste les chiffres de la construction. On n'est pas loin de quasiment 100 000 emplois détruits dans la construction. En sachant qu'il y a des groupes immobiliers, vous le savez, qui se sont mis sous la protection de la justice. D'autres ont disparu, 120 ont disparu, les acteurs de la promotion notamment. Vous avez su résister parce que vous êtes multipolaire. Vous êtes très diversifié, vous allez du logement très social au logement classique et de la transaction, donc j'allais dire plutôt bien vu, et vous n'avez pas été obligé de faire comme certains, des plans sociaux et de vous séparer de collaborateurs, donc on peut saluer la bonne rigueur de gestion du groupe Batiger. Alors justement, quand on voit ce qui attend l'avenir des métiers, je voudrais juste qu'on revienne sur, par exemple, le nombre d'agréments, vous savez, qui est un peu le curseur, finalement, pour mesurer la bonne santé de l'habitat social. Vous êtes d'accord là-dessus? 90 000 à peine, c'est terriblement bas.
Oui, ben c'est très faible. C'est l'effet conjugué, effectivement, des hausses des coûts de la construction, des hausses du coût du crédit, de la fragilisation du modèle économique avec la RLS. Donc, tout ça, finalement, ça finit par peser.
Vous seriez pour la suppression de la RLS, on est d'accord?
Il n'y a aucun bailleur social qui pourrait être pour son maintien.
RLS, est-ce qu'elle a été fatale ou en tout cas a beaucoup réduit les marges de manœuvre d'investissement?
Elle a réduit les investissements des organismes HLM, c'est très très clair. Nous, on nous a enlevé, je crois, quelque chose comme 20 millions d'euros. Donc, on parle de ça chaque année. Hein. Donc quand on sait les fonds propres qu'on met pour la création d'un logement, par exemple 50 000 euros, ben, voilà, on fait la division et on se rend compte qu'il en manque à l'arrivée. Et c'est logique parce que dans le macro-organisme HLM, hein, si on se combine tous ensemble, on se rend compte qu'à la fin, ben, on ne peut pas évidemment faire autant que ce qu'on faisait avant. Et cette RLS, elle est arrivée avant cette crise immobilière qui a ajouté d'autres fragilités. Donc naturellement, tout ça, mis bout à bout, on a beau se battre, évidemment, on ne peut pas faire autant que ce qu'on aimerait faire. Et nous, on aimerait bien continuer à le faire.
L'État, la RLS, c'était surtout pour récupérer un peu d'argent, pour être très clair.
Ah ben, c'est une mesure d'économie, enfin c'est une mesure de taxation, évidemment.
Voilà, c'est une façon
il y a pas de philosophie
de prendre,
derrière
même
ça.
Si, in fine, parce que vous avez mille fois raison, hein, quand vous cumulez, vous et l'ensemble de vos confrères du secteur, j'exagère peut-être un peu, mais le gap, c'est-à-dire entre le curseur normal d'agrément qui serait à combien, 120, 130 ?
Ouais, entre 120 et 150, ce serait bien.
Il serait peut-être là un peu, en grande partie, peut-être significativement. Hein.
Ah oui, clairement.
Sans la RLS, on serait peut-être à 20 000 unités supplémentaires.
Oui, je pense, 20, 30 000 sans problème.
C'est énorme.
Le poids économique de la RLS, il est quand même très fort. Et tous les organismes HLM, et j'en connais beaucoup, il n'y en a aucun qui a une autre envie que de se développer. On a envie d'avoir plus de logements qualitatifs, on a envie de faire du neuf, qui est aussi l'occasion pour nous d'avoir des étiquettes énergétiques qui sont très favorables, qui sont abaissées. Voilà. Donc tout le monde a envie de ça, mais on ne peut faire qu'avec ses moyens, on est comme un particulier là-dessus. Simplement pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la promotion immobilière, je crois qu'aussi il faut être lucide sur le fait que vendre des logements à des prix où personne ne peut les acheter, ça sert à rien.
Bah oui, ça sert à rien.
Alors voilà, il faut aussi être un peu raisonnable. Donc on est aussi un peu tous en tort collectivement d'avoir contribué à des hausses de prix. Donc parfois, il faut savoir ne pas prendre une opération.
Est-ce que vous pensez que certains de vos confrères ont un peu exagéré?
On a tous péché là-dessus. Oui. C'est-à-dire que parfois, on s'est un peu fait plaisir en disant le marché va continuer à monter. Donc on y va, on engage, on est au maxi des capacités. Ben non, à un moment donné, les maxi des capacités, elles se retournent. Par exemple, si je cite une opération vraiment à succès cette année qu'on a faite sur SLCI, c'est une petite opération de promo, de promotion immobilière.
À Lyon?
Au-dessus de Lyon, dans le Beaujolais, à Pommiers. 14 maisons individuelles, PSLA.
Très bien.
Voilà, dans des secteurs attractifs. La gare n'est pas très loin, les gens peuvent aller à Lyon. Petit bout de jardin, architecture sympa, architecture, rigoureuse, c'est-à-dire pas trop coûteuse, pas des gestes architecturaux qui font qu'à la fin on a un surcoût de 20%, on s'est fait plaisir, mais il n'y a pas d'acheteur.
Voilà.
Et plus de la moitié de l'opération est réservée aujourd'hui, elle a été lancée il y a un mois et demi. Ça me plaît parce que ça montre que finalement, quand on va s'intéresser au public qui a des moyens, c'est-à-dire la France normale qui travaille, qui a deux salaires et qui peut s'offrir aujourd'hui un logement en PSLA, et bien ça marche. Le PSLA continue à marcher, il faut faire des beaux produits, il faut faire attention à ne pas trop libérer les énergies sur la folie créatrice architectural de nos bâtiments. Il faut faire des choses qui fonctionnent, qui ne soient pas trop
ou même, coûteuses. À la limite, des modes de construction ou même des matières. Est-ce que ça veut dire, dans votre discours, que je retiens, c'est une façon de dire qu'il faut nécessairement que ça soit de l'abordable à tous les niveaux.
Alors,
et que le logement
niveaux,
doit être abordable.
Moi, j'adorerais faire aussi des logements de luxe dans tout ce qu'on fait.
Mais
c'est pas notre truc, on sait pas le faire.
Le luxe connaît pas la crise. Donc,
il y a un marché pour beaucoup de choses. Nous, ce qu'on sait faire chez Batigère, chez Procivi, chez SLCI, Evel, etc., c'est évidemment plutôt le logement abordable. Et donc là-dessus, je pense que, y compris les promoteurs qui ne sont pas dans notre écosystème du logement abordable ou social, ils n'ont pas d'autre choix que de regarder ça, parce que sinon ils vont voir des trains passer et ils vont finir par avoir de moins en moins de collaborateurs, de moins en moins d'énergie autour d'eux pour fabriquer la ville de demain. Donc on est obligé de vendre des produits qui se vendent, ça ne sert à rien de rêver.
Qui se vendent et puis dont les dispositifs leur permettent aussi d'y accéder, PTZ, PSLA, mais aussi des crédits subventionnés, il y a certaines banques qui le font très très bien. Justement, dernière question, si vous deviez là, comme ça, en tant qu'aujourd'hui directeur général d'un groupe puissant, donc vous êtes aussi très exposé comme tous vos confrères, faire passer un message à ce nouveau ministère à qui on va donner sa chance, qu'est-ce que vous lui diriez là ?
Pragmatisme, écoute, mais je crois qu'on va être parti là-dessus, et c'était de plus en plus le cas déjà les derniers mois. Faut reconnaître qu'il y avait déjà un changement de ton, une volonté d'écouter les acteurs. On avait eu l'occasion de rencontrer le précédent ministre. Ça s'était bien passé. Alors évidemment, ça s'est passé sur un temps très court, donc ça n'a pas
le très éphémère ministre du
Lendemain. Mais avec une écoute déjà, et donc là, on a à la fois l'écoute, on a l'expérience. Donc je crois qu'il y a quand même des ingrédients qui sont intéressants. Donc on peut légitimement espérer.
Valérie Létard a quand même, c'est elle qui a piloté le projet de loi ZAN.
Oui.
Bon, qui a quand même, qui a pas fait plaisir à tout le monde, la loi ZAN, pour être très clair.
Oui, c'est sûr, parce qu'elle comporte peut-être des excès par rapport à son champ d'application.
Oui,
mais la logique, la philosophie de la loi, elle est formidable. Refaire la ville la ville.
Absolument.
Penser reprendre des objets immobiliers qui sont désuets en ville pour en refaire, les refaire vivre sur 30-40 ans. L'idée, elle est formidable. Donc après, évidemment, il faut faire des ajustements, mais l'idée fondamentale, moi, je la trouve quand même très pertinente. Elle mélange l'écologie, le pragmatisme, le fait de vivre aussi à proximité des transports. Donc tout ça a du sens.
Merci beaucoup, Jean-François Prévost. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je vous rappelle que vous êtes directeur général de Batigère Group, un ensemble de métiers, je crois que vous pratiquez, je crois, une trentaine de métiers, voire même plus.
Je ne sais pas le dire comme ça.
En fait, vous savez,
ça doit être quelque chose comme ça. On a quatre grands métiers. Hébergement, logement social, intermédiaire et services immobiliers.
En fait, si on veut voir une ville, on regarde Batigère puis on voit une ville.
pas tout à fait quand même.
Merci beaucoup, Jean-François Prévost. On vous souhaite un excellent congrès ici, H-Expo, congrès de l'Union sociale pour l'habitat. À suivre, une émission avec nos amis d'Axéo, justement. On va parler de rénovation énergétique et de tous les jets, puisque la rénovation énergétique, ça fait partie des enjeux majeurs de notre société. Et on ne pourra pas faire autrement, bien évidemment. On le recevra dès 12h, à réécouter, bien sûr, sur les podcasts, comme d'habitude, sur notre plateforme d'écoute, sur Territoria et sur Radio Immo. On vous retrouve dans quelques instants.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia, sur Radio Immo et Radio Territoria.